1. Bernard Poirette vous informe sur Europe 1.
Mister K, petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky, ça vient de paraître au Seuil et c'est signé par notre confrère de Libération, Jérôme Le Filiatre, qui est notre invité ce dimanche matin. Jérôme Le Filiatre, bonjour.
Bonjour.
Jérôme Le Filiatre, votre livre consacré donc à Daniel Kretinsky est titré Mister K, donc mystère en anglais, monsieur, mais aussi peut-être c'est un jeu de mots, mystère, parce que c'est un mystère, monsieur Kretinsky.
Ouais, c'est un mystère. C'est un personnage mystérieux qui intrigue depuis qu'il est arrivé en France en 2018 et qui, pour moi, à la fin de ce travail d'enquête, reste un peu mystérieux parce que il pose beaucoup de questions. Ce personnage qui investit dans la presse et qui dit vouloir soutenir la démocratie, mais qui a fait fortune dans des conditions un peu bizarres, un peu troubles en Europe centrale. On se demande ce qu'il est venu chercher en France. Est-ce qu'il est vraiment là pour défendre la presse, le journalisme et la démocratie, ou est-ce que il s'est positionné dans les médias parce qu'il cherche un gros coup économique derrière, dans le secteur de l'énergie, qui est son secteur naturel, peut-être en visant une grande entreprise ou ailleurs. Il est déjà investi dans un grand groupe français qui s'appelle Casino, qui est un grand groupe de distribution. Donc on se demande effectivement pourquoi il est là, et on le saura sans doute dans les années qui viennent, parce que je pense qu'on va beaucoup entendre parler de lui dans les 5, 10, 15 ans qui viennent.
Je rappelle aux auditeurs que M. Kretinsky, qui est tchèque, donc n'a que 44 ans, il est multimilliardaire en euros. Est-ce qu'il est faux de dire qu'il est multimilliardaire grâce au charbon qui a été son fonds de commerce? Lui, il dit en tout cas, non, pas du tout, c'est pas que le charbon, c'est en gros toutes les énergies fossiles.
Ce qui fait vraiment sa fortune à Daniel Kretinsky, c'est un gazoduc qu'il a racheté en 2013, un gazoduc en Slovaquie, par lequel le gaz russe de Gazprom arrive en Europe de l'Ouest.
Ah, oui.
Il s'est très fortement mobilisé pour acheter ce tuyau, il a dépensé beaucoup d'argent, il a négocié pendant 2 ans, parce que ce tuyau, il lui rapporte énormément de cash tous les ans, c'est environ 500, 600 millions d'euros qui tombe sur les comptes de son entreprise EPH, et après il faut qu'il réinvestisse cet argent, qui est énorme. Et en plus, c'est des contrats qui courent sur plusieurs années, donc jusque quasiment 2030, donc il sait exactement combien d'argent il va avoir sur les 10 ans qui viennent. Il n'a pas de problème d'argent, lui, il a un problème d'investissement de son argent.
Alors on va venir à ses investissements dans la presse, notamment française, parce que d'abord il est francophone, il parle très bien français, c'est un monsieur extrêmement poli, il est très francophile, il aime beaucoup le vin de Bordeaux, etc., etc. Mais tout de même, quand on dit qu'il achète des choses avec cet argent, c'est vrai. Et notamment, il achète des vieilles centrales à charbon un peu partout. Mais pourquoi donc ?
Ça, c'est tout le sel du personnage. C'est-à-dire qu'effectivement, depuis 7 ou 8 ans, il rachète des centrales à charbon partout en Europe. Il l'a fait encore en Allemagne. Alors en France, l'an dernier, et même en Allemagne, il en a racheté une au mois de février. Donc il continue à croire dans cette énergie. Daniel Kretinsky, c'est un petit peu l'éboueur en Europe pour les grands groupes énergétiques. C'est-à-dire que quand ils cherchent quelqu'un, ces grands groupes, pour racheter leur centrale à charbon, souvent ils se tournent vers Daniel Kretinsky qui lui rachète, parce qu'il croit qu'on en aura besoin encore des centrales à charbon. Il croit pas à la politique européenne qui vise à passer de ces vieilles les énergies fossiles aux énergies renouvelables en quelques années. Donc lui, il rachète ses centrales en se disant, je vais les faire tourner au maximum pendant 2, 3, 4, 5 ans. Pendant ce temps-là, je vais faire de l'argent. En plus, je rachète les centrales pour une bouchée de pain à chaque fois parce que les gens n'en veulent plus. Ça permet de faire de la rentabilité pendant plusieurs années.
Oui.
Et puis, à l'issue de ce temps-là, je verrai en fonction des projets pour les reconvertir en centrales à gaz, en usine X ou Y, en incinérateur, etc. Il peut avoir des projets un petit peu partout, y compris dans les énergies nouvelle. Notamment, lui, il croit beaucoup à une énergie nouvelle qui n'est pas vraiment renouvelable parce qu'il faut importer du bois de très loin.
C'est la biomasse.
Canada, etc. C'est la biomasse, exactement.
Absolument.
Lui, il a déjà fait ça plusieurs fois. Il a déjà
en Angleterre,
transformé
en
plusieurs centrales, en Angleterre notamment, du charbon en biomasse.
Alors, il s'attaque maintenant à la France. On ne sait pas très bien d'abord comment il s'attaque. Il y a eu un moment, une rumeur disant qu'il voulait acheter EDF, voire Engie, mais en fait c'est un peu trop gros encore pour lui. Peut-être demain, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il achète de la presse. Il a acheté donc Marianne, il a acheté au groupe Lagardère Elle et d'autres magazines, et il a 2 hommes en France qui font le relais, Étienne Berthier qui est un vieux compagnon de route de plus de 10 ans et Denis Oliven, l'ancien patron d'Europe 1. Et qu'est-ce qu'ils font ces 2 hommes pour lui ici dans l'Hexagone?
Eh bien c'est ces 2 hommes de confiance en France, ces 2 hommes de réseau. Il y en a un qui est peu connu, qui est Étienne Berthier, qui était dans les réseaux de l'énergie, etc., et qui fait le lien avec tous les hommes d'affaires français.
Ouais.
Et puis de l'autre côté, il y a Denis Oliven qui est lui plus connu, qui est bien inséré dans l'appareil d'État parce que c'est un haut fonctionnaire qui est passé dans le privé, notamment européen effectivement, mais d'autres entreprises. Et lui, il fait le lien aussi avec les pouvoirs publics, notamment jusqu'au plus haut niveau de l'État. Il a des contacts avec Emmanuel Macron. Dans le livre, je révèle qu'il y a eu des discussions entre Emmanuel Macron et Denis Oliven à propos de Daniel Kretinsky et de son investissement dans le monde.
Ouais.
Effectivement, ces deux hommes, c'est un peu les deux têtes chercheuses en France. C'est eux qui présentent Daniel Kretinsky aux grands patrons, aux ministres, aux fonctionnaires, etc. Parce que Daniel Kretinsky, il faut comprendre qu'il est en train de tisser sa toile en France. Il rencontre beaucoup de gens. Récemment, c'est aussi une autre révélation dans le livre, c'était au mois d'octobre, il est allé voir Martin Bouygues, par exemple,
exact.
Qui lui a été présenté par une connaissance d'Étienne Berthier.
Il voulait investir dans TF1.
Il voulait investir dans TF1. Il est allé voir, ça montre un peu quelque chose du personnage.
Il est gonflé.
Daniel Kretinsky est assez audacieux, assez gonflé pour aller voir Martin Bouygues, quand même un ponte du CAC 40 français, pour lui dire bonjour, je suis Daniel Kretinsky et je voudrais investir 10% dans TF1, racheter 10% de TF1. Est-ce que vous êtes avec moi ou contre moi? Et finalement, Martin Bouygues a dit non, je pense pas que ce soit une bonne chose. Tant que vous êtes dans le monde, on va croire que j'essaie d'investir dans le monde par votre biais. Donc finalement, Daniel Kretinsky s'est retiré. Mais il avait déjà commencé à acheter des actions TF1 en bourse. Donc ça montre quand même l'ambition du personnage. Il veut pas être un acteur mineur, il veut être un acteur majeur du business français et du business européen.
Mais je rappelle qu'il n'a que 44 ans. Alors, il se dit plein de choses sur Monsieur Kretinsky. Il se dit, par exemple, entre autres choses, que c'est une créature de Poutine, qu'il est téléguidé par les Russes. Il se dit qu'il a des liens très étroits avec la mafia. Il se dit, mais ça c'est vrai, qu'il est très implanté dans de nombreux paradis fiscaux, notamment le Luxembourg, où sont déposées plusieurs de ses sociétés. Alors, vous l'avez rencontré plusieurs fois pour faire ce livre. Qu'est-ce que vous en pensez au fond de vous-même, Jérôme Le Filiatre? Comment vous l'avez perçu? À part qu'il est charmant et poli, il ment ou il dit la vérité? Il a des vraies convictions ou il ne pense qu'au dollar?
Alors je pense qu'il y a une forme de sincérité chez lui, notamment sur son rapport à la démocratie. Il est né en 1975, donc c'est quelqu'un qui a vécu à l'adolescence la révolution de velours en République tchèque,
ouais.
Ce qui marque quand même une vie quand on est jeune. Il a connu la dictature soviétique pendant toute son enfance et puis la libération et le passage vers la démocratie. Dans des conditions évidemment sauvages, tumultueuses, mais quand même, voilà, c'est une expérience de vie qui vous marque. Donc je pense qu'il y a une forme de sincérité dans ce rapport à la démocratie. En revanche, moi je pense quand même que c'est un homme d'affaires, avant tout. C'est un milliardaire, il est là pour faire de l'argent, il aime le business, il a une ambition de conquête, désir de pouvoir, d'argent, et je pense que c'est quand même ce qui prédomine, comme chez la plupart de ces grands hommes d'affaires, milliardaires, on connaît bien, il y en a beaucoup en France, parmi les grandes fortunes de France,
oui.
On les connaît bien, et ils ont quand même, Kretinsky aussi, ils ont quand même un désir, oui, de pouvoir, d'argent, qui prédomine. Ça rend en contradiction avec leurs convictions politiques, idéologiques, parfois. Je crois que Kretinsky, c'est aussi le cas, mais moi, ce que j'en retiens quand même, après l'avoir rencontré plusieurs fois, c'est que c'est un redoutable homme d'affaires.
Ouais.
Opportuniste, très ambitieux, très déterminé, très intelligent. Ça n'empêche pas d'être poli, courtois, sympathique, mais quand même, il y a quelque chose qui domine chez lui, c'est ce désir de conquête, de pouvoir, d'argent.
Alors il y a aussi une chose, et je terminerai là-dessus, ça m'a beaucoup troublé. Bon, il peut s'offrir ce qu'il veut, Daniel Kretinsky, donc je disais tout à l'heure qu'il aime beaucoup le Bordeaux, mais lui, ce qui l'amuse, c'est de trouver des bonnes bouteilles pas trop chères, dit-il. Autour de 100 euros, ça semble acceptable, mais il dit, texto, entre guillemets, 2000 euros pour une bouteille de vin, ça je ne peux pas, ça me reste en travers de la gorge. C'est étonnant, non ?
Oui, c'est étonnant de dire ça, effectivement, c'est étonnant.
Quand on est Kretinsky, non ?
J'ai été très étonné. Non, mais c'est vrai que c'est pas un flambeur quand vous le voyez comme ça. Ça ne transpire pas ce côté milliardaire. Il y a une forme de simplicité chez lui qui est assez frappante. C'est-à-dire que c'est pas le milliardaire de la vieille génération qui vous tient à distance en vous faisant comprendre qu'il n'est pas du même monde que vous.
Ouais.
Là, on est dans un businessman, un milliardaire, un homme d'affaires de la nouvelle génération. C'est-à-dire qu'il comprend parfaitement le monde dans lequel on est, qui comprend parfaitement les enjeux de communication et qui sait jouer la proximité, la courtoisie. C'est peut-être assez naturel d'ailleurs chez lui, mais effectivement, quand on discute avec lui, on a l'impression qu'il est avec nous, qu'il vit sur la même planète. Ce qui n'est pas le cas de tous les milliardaires, je pense.
Loin de là. Merci beaucoup, Jérôme Le Filiatre. Mister K, avec un K, donc petites et grandes affaires de Daniel Kretinsky, dont on entendra forcément beaucoup parler dans les prochaines années dans le capitalisme français. Ça vient de sortir au Seuil, j'en ai un exemplaire dans les mains, bien évidemment les librairies sont fermées, mais bientôt vous aussi vous pourrez le lire et croyez-moi c'est absolument passionnant. Merci beaucoup Jérôme Le Filiatre, bon dimanche.